Table ronde. Table ronde.
C'est une émission produite par le projet, mais aussi cofinancée par l'Union européenne et pilotée par la Fondation Hirondelle en consortium avec l'Affaire CAB et Ecolab.
Le projet Mais aussi a pour objectif général de contribuer à la valorisation du plaidoyer de la société civile béninoise, notamment auprès des décideurs et décideuses locaux grâce à une information indépendante, inclusive et qui place les Béninois et Béninoises au centre du débat. La consommation des stupéfiants impacte-t-elle négativement les rendements scolaires? C'est autour de cette question que va se dérouler cette émission Table ronde. Comme invités, ils sont au nombre de 3 parents d'élèves. Ils répondent au nom de Seke et Pierre, notre second invité, et qui répond ici au nom des enseignants. Il s'agit du directeur Souroko Richard. Il est enseignant au primaire à Koundé. Le troisième invité, c'est Seke Lafia, coordonnateur de la cellule participation citoyenne de la commune de Koundé. Bienvenue, chers invités.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pour planter le décor de cette émission, quelle est la définition du mot stupéfiant? Un tour de table avec mes invités. Je commence par monsieur Pierre.
Un stupéfiant, c'est une substance connue pour sa toxicité et qui donne un effet euphorisant.
La fierceké.
J'entends pas stupéfiant. Tout produit consommé qui peut amener une déficience mentale chez le consommateur.
Directeur Souroko Richard.
Oui, un stupéfiant, c'est toute substance que l'on peut consommer ou perdre son équilibre.
Coordinateur de la cellule participation citoyenne de la commune de Koundé, dites-nous quel type de stupéfiant circule dans nos localités.
Nous avons divers produits qui sont vendus dans le marché noir. Il y a généralement des produits appelés 5-5, Tramol, d'autres connus sous le nom de 5 carreaux divers. Il y a même des boissons appelées Tombeau, un nom effrayant. Ça ne s'arrête pas à cela. On peut aussi trouver tout produit alcoolique que nous rencontrons dans les bistrots un peu partout. Tout ça là, ce sont des stupéfiants.
Et d'accord, c'est que Pierre?
Oui, pour compléter, comme stupéfiant, nous avons les boissons alcoolisées, comme il a dit.
C'est-à-dire?
Et les boissons alcoolisées, les boissons qui contiennent de l'alcool et qui peuvent tout de suite tourner la tête et délirer. Voilà, c'est la boisson alcoolisée. Il y a aussi, ce qu'on perd de vue, il y a aussi les produits aphrodisiaques. Produits aphrodisiaques, c'est les produits qu'on utilise qui sont des excitants et qui, à la longue, causent une dépendance. Et de cette dépendance arrivent les troubles anxieux.
Directeur Souroko Richard, qu'est-ce que vous avez pour compléter à cette préoccupation?
Merci, monsieur le journaliste. Pour compléter la liste, je dirais que, comme stupéfiant, on peut citer aussi du cannabis, on peut citer de la cocaïne, d'extasie. Ce sont des drogues, disons, que les enfants aussi peuvent consommer.
Alors, des boissons alcoolisées, bon, il s'agit de quel genre de boissons dont vous êtes en train de lister?
Oui, quand on parle de boissons alcoolisées, nous voyons tout de suite le sodabi. Et à cela s'ajoute le sodabi, aujourd'hui frelaté. Et il y a également les boissons très fortes, qu'on appelle le gin. Il y a toute une gamme de produits alcoolisés, on ne peut pas citer. La liste est très longue.
En milieu scolaire, quels constats faites-vous de la consommation des stupéfiants? Souroko Richard.
Dans le rang des élèves, nous remarquons souvent des réactions qui attirent vraiment notre attention pour le fait qu'ils consomment des stupéfiants comme des comprimés, d'autres des boissons frelatées et puis d'autres choses.
Et là, vous avez donné cas des élèves. Côté enseignant?
Oui, côté enseignant, il y a des collègues qui en consomment. Du coup, on remarque en eux un changement de comportement.
En tant que parent d'élèves, également, quel constat faites-vous de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire? Pierre.
Merci. En tant que parent d'élèves, quand nous observons notre enfant, on constate, comme l'a dit le directeur, un changement de comportement. C'est-à-dire l'enfant qui était docile, l'enfant qui était calme, qui respectaient les parents, à un moment donné, on change le comportement net. Quand on est parent d'élève, on vit avec l'enfant 24 heures sur 24. Un petit changement, on le remarque.
Coordonnateur de la CPC Koundé, qu'avez-vous ajouté de ce constat?
Le constat qu'on peut faire par rapport à la consommation de stupéfiants, et au niveau scolaire, d'abord, l'école, c'est un lieu d'éducation où les enfants sont allés pour étudier, apprendre, soit dans les ateliers. Donc, la consommation de ce produit amène une chute du rendement scolaire parce que l'élève qui avait commencé par briller, s'il se lance dans ce genre d'activités, on va constater qu'il ne donne plus le meilleur de lui-même.
Pourquoi certains enseignants et élèves s'adonnent à cette pratique?
Pour ce qui concerne les enseignants, moi je dis bien que c'est un choix. Il y a certains qui choisissent, pensant que c'est une solution pour se tirer d'affaires. Et au bout du temps, ils s'enlisent. Au lieu de trouver des solutions alternatives pour éviter ces gens, cette prise de drogue, on se dit, mais vu que je suis stressé, vu que j'ai des problèmes, je préfère m'adonner à la drogue pour oublier tout ça.
Un enseignant qui perçoit son salaire à chaque fin du mois, quel genre de situation il a en tête et il va se lancer dans la consommation des stupéfiants, monsieur le directeur?
C'est un salaire qui ne suffit pas. Il y a d'autres pesanteurs qui agissent. Il n'a plus autre solution. Il se dit qu'il n'a plus autre solution que de se donner à la drogue. Tant qu'il n'est pas bien planifié, on est obligé d'être soucieux et de se donner à ce genre de pratique.
Alors, côté élève?
Oui, les élèves, la plupart, c'est la mauvaise compagnie. Il sort, il voit comment d'autres vivent dans des bistrots. Il se dit, bon, je vais tenter de faire. Vous savez, par exemple, j'étais dans une école où les enfants ne faisaient que prendre de la dissolution. Oui, un jour, je leur ai posé la question de savoir pour quelle raison vous le faites. Ils n'ont pas pu me dire. Mais ce qu'ils font, c'était tellement dangereux qu'il ne fallait pas qu'ils le fassent.
Merci, Soako Richard. Je rappelle que vous êtes directeur au primaire ici à Koundé. Côté et parents d'élèves, qu'est-ce que vous avez à ajouter?
Je vais intervenir sur plusieurs aspects. Le tout premier d'abord, vous voyez, quand on affecte un enseignant dans un village, alors cet enseignant qui était habitué à la ville, qui était habitué au plaisir, tout de suite il se retrouve dans un autre milieu où il ne voit que les oiseaux et autres après les cours. Et là, pour chercher à s'évader, alors il cherche à consommer soit de l'alcool. De l'alcool, et là, il se trouve à l'aise. Et de l'alcool, s'il n'est pas satisfait, un jour, il peut se retrouver à la drogue. C'est le tout premier aspect. Le second aspect, vous voyez, aujourd'hui, il y a des examens professionnels. Il y a des examens professionnels qu'on passe.
Il y a aussi
l'échec, oui. Après l'échec, pour noyer les soucis, on peut s'adonner à l'alcool. Mais après l'alcool, les soucis reviennent au galop, ce qu'on oublie. Et il y a également l'élève ou un enseignant, pas un enseignant parce qu'il y a des concours professionnels partout, qui cherche à exceller. Alors là, tout de suite, il se retrouve avec une mauvaise publicité ailleurs. On dit, en prenant tel produit, vous pouvez bûcher et garder ce que vous avez étudié. Et là, vous allez déverser cela au cours de l'examen. Voilà une mauvaise publicité. Et quand tu consommes, tu constates que tu es à l'aise, tu es aux élites. Et là, les leçons passent. Tu fais le bushing comme cela se doit. Mais quand tu t'habitues, ce système, ça donne autre chose. Donc voilà ce qui amène les gens, selon moi d'abord, à consommer les soucis. Et aussi, on cherche à exceller et on tombe, on devient accro d'un autre produit.
Du côté de la société civile, qu'avez-vous ajouté?
L'homme, en général, traverse souvent plusieurs situations. Tu es homme, tu es père de famille. Tu es encore responsable dans un centre donné, dans un lieu de travail. Donc, il y a plein de charges qui pèsent sur la tête de l'homme. Si on vient au niveau des élèves, généralement, les jeunes qui se donnent à ça, c'est déjà des jeunes adolescents. Vous voyez, à cet âge, c'est des garçons qui sont déjà très, très orgueilleux.
Comment les stupéfiants affectent-ils la mémoire, l'attention et la concentration, monsieur le directeur?
La consommation des stupéfiants peut avoir un impact négatif sur les rendements scolaires. Plusieurs études et recherches ont montré que l'usage des drogues, qu'il s'agisse des différentes drogues que nous venons de citer, peut affecter les capacités cognitives. la concentration, la mémoire et la motivation. Lorsque nous prenons l'impact sur le cognitif, les stupéfiants peuvent altérer la mémoire à court terme, la concentration et les capacités d'apprentissage qui sont essentielles pour la réussite scolaire. Toujours parlant de l'impact, lorsque nous prenons l'enfant qui prend la drogue, il peut régulièrement s'absenter au cours, sous prétexte qu'il est malade. Du coup, alors, ça doit impacter sur le résultat. Toujours pour ces mêmes éléments, lorsqu'un enfant s'adonne à la consommation de la drogue, sa motivation se réduit. Il n'a plus d'engagement. Cela peut affecter l'implication dans les études et les activités scolaires.
Alors, merci bien. Certainement, le parent d'élève également a ajouté, puisque déjà, une fois que votre enfant rentre à la maison, vous faites le constat déjà que tel qu'il travaille à l'école, c'est réduit.
C'est vraiment une question préoccupante. L'enfant qui s'adonne stupéfiant à la longue tombe malade. Les troubles.
Mémoire affectée,
merci. Et à la longue, des troubles anxieux, on se retrouve. À d'autres mots, progressivement, l'enfant se suicide. C'est ça qui amène au suicide. Parce que les troubles de l'humeur, l'enfant tombe dans la dépression. De la dépression maintenant, on tombe dans au suicide. La dépression, c'est à peu près comme la folie. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qu'on connaissait, très brillants et puis connus, dans la rue, en train de ramasser les tas d'ordures, en train de délirer. Ça, c'est l'effet de la drogue. Et c'est quand on n'arrive pas à encadrer l'enfant, quand on n'arrive pas à suivre l'enfant à la maison pour voir qu'est-ce qu'il fait, s'accompagner, c'est ça. Langage belliqueux à la maison, même devant son père.
Oui.
J'ai vu des gens frapper leur propre père. Pour la petite histoire, quand moi j'étais au second cycle à Natitengo, on a un cousin que j'ai vu, un cousin, on battait, mais il a serré les cols de son père. Il a tenu son bras, il a retourné derrière. Et il disait, même en bariba, voilà, tu te dis que tu es fort, maintenant que j'ai ramené ton bras derrière, qu'est-ce que tu as pu faire? À son père biologique, hein. Qu'est-ce que tu as pu faire? Voilà une scène qui s'est passée, mais après, c'est un élève, classe de quatrième. Voilà ce que ça peut donner à la longue.
Consommation des stupéfiants impacte-t-elle négativement le rendement scolaire? C'est la thématique de cette émission Table Ronde. Quel est le lien entre la consommation des stupéfiants et l'absentéisme ou le décrochage scolaire?
Vous savez, il n'y a pas cet enseignant qui va vouloir que ses enfants s'adonnent à cette pratique négative. Il n'y a pas un lien qu'on peut dire entre son éducation à l'école et la prise de la drogue. La drogue est un fléau qui est vraiment très dangereux pour, disons, l'éducation de l'enfant.
Merci pour la précision. C'est que la FIA, dites-nous, cette pratique affecte-t-elle les opportunités des élèves, accès à l'université, emploi, etc.?
La prise de ces stupéfiants arrive à faire perdre le raisonnement à l'apprenant. Donc, du moment où votre niveau de réflexion est embrouillé. Je pense que vous ne serez plus en mesure de répondre favorablement aux exercices qu'on vous donne en classe. Donc, et cela a pour conséquence les échecs et des échecs répétés. Donc, l'enfant va connaître plus tard pratiquement le rejet dans la société. Donc, de ce fait, ce dernier ne pourra plus profiter des opportunités futures pour dire qu'il va poursuivre. Du moment où vous avez perdu le raisonnement, vous n'êtes plus une personne sensée, il ne sera plus autonome. Donc, cette perte d'autonomie, donc, lui fait perdre les autres opportunités de la vie.
Étant parent d'élève, c'est que Pierre, cette pratique affecte-t-elle les opportunités des élèves?
Tout à fait. C'est une pratique qui affecte les opportunités. Pourquoi je le dis? Vous prenez un enfant qui est accro à la drogue. Face à ce comportement, et on ne le prend plus au sérieux. On ne le prend plus au sérieux. Et quand on sait qu'aujourd'hui, pour les entretiens, on parle d'entretien pour un job et autres, on fait d'abord une enquête de moralité. C'est très important. Et quand on parle d'enquête de moralité, on cherche si tu es un accro à la drogue, ton comportement. Alors, c'est de la drogue que les comportements viennent. Et là, on te connaît comme tel, tu es éliminé parmi tant d'autres. Que nos enfants sachent qu'aujourd'hui, pour trouver un bon job, on fait d'abord une enquête de moralité.
Autour de cette table ronde, ils sont trois, Soura Kourisha, directeur au primaire à Koundé. C'est que Pierre, il est parent d'élève. et puis c'est que l'AFIA, qui est le coordonnateur de la cellule de participation citoyenne de Coindé. Parlons à présent de la prévention et l'intervention pour lutter contre la consommation des stupéfiants dans nos établissements scolaires. Et quelles sont les stratégies efficaces pour prévenir la consommation des stupéfiants chez les enseignants et élèves?
Il est essentiel d'aborder le sujet de la consommation des stupéfiants avec empathie et compréhension pour prévenir alors la prise de la drogue. D'abord, ils doivent être informés, c'est-à-dire comprendre les effets des substances sur le corps et l'esprit. Cela peut aider à prendre des décisions éclairées. La connaissance des conséquences à court et long terme peut dissuader la consommation. Ils ne doivent pas hésiter à exprimer leurs préoccupations à un adulte de confiance, comme un parent, un enseignant ou un conseiller scolaire. Il est important alors de partager leur expérience et d'obtenir du soutien. Ils doivent explorer leur motivation, c'est-à-dire réfléchir aux raisons qui leur poussent à consommer des drogues. Ils doivent chercher des solutions saines pour faire face au stress, à la pression sociale ou à d'autres problèmes. Ils doivent éviter des situations à risque, c'est-à-dire identifier les environnements ou les groupes d'amis qui encouragent la consommation et chercher à les éviter si possible. Ils doivent chercher des activités alternatives, c'est-à-dire s'impliquer dans les loisirs, des sports ou des clubs qu'ils passionnent. Cela peut leur aider à développer des compétences et à créer des liens sociaux positifs. Ils doivent pratiquer aussi des techniques de gestion de stress, prendre les méthodes saines pour gérer le stress et les émotions comme la méditation, la pratique d'un instrument musical par exemple. Côté enseignant, ils doivent apprendre à gérer leurs problèmes. Ils doivent éviter d'avoir des ambitions démesurées. Parce que tout ça la pousse des gens à prendre de la drogue et vivre au-delà de leurs moyens.
Côté parents, comment les écoles et les familles peuvent-elles intervenir et soutenir les élèves qui consomment ces produits? Surtout côté famille, c'est que Pierre.
Oui, d'accord. Je remercie monsieur le directeur. Et je voudrais faire un plaidoyer. Le plaidoyer, c'est quoi? Vous voyez, il faudrait que les programmes scolaires prennent en compte ce point-là, c'est-à-dire sensibiliser les enfants sur les conséquences de la consommation des stupéfiants. Il faut qu'on mette un accent là-dessus. Avant, il y avait la morale, il faut qu'on mette un accent particulier là-dessus. Et aussi, ça, c'est une proposition, qu'on forme les enseignants pour qu'ils puissent détecter les enfants. Parce qu'il y a des spécialistes hein, qui savent déjà, en voyant, ils savent que cet enfant-là n'est pas normal, il y a l'effet de la drogue. Alors qu'on donne une petite formation aussi aux enseignants pour que très tôt, qu'ils détectent ces gestes-là et puis pour les conseiller. Bon, quant à nos parents, vous avez demandé comment soutenir les enfants qui s'adonnent à la drogue. Les enfants qui s'adonnent à la drogue, là, c'est la sensibilisation toujours. Parce qu'il ne faut pas passer par la violence. Quand on passe par la violence, ça n'arrange pas, mais c'est une sensibilisation. Il faut rééduquer l'enfant et lui dire les conséquences de façon réelle, lui donner des exemples. Il ne faut pas passer par la violence, je le dis encore. Et l'enfant qui s'adonne à la drogue, il faut voir qu'est-ce qui lui manque à la maison. De quoi a-t-il besoin? Si c'est une mauvaise compagnie, il faut essayer de séparer l'enfant avec cette mauvaise graine. Si c'est les soucis parce qu'il a perdu un être cher, ou bien parce que bon, il faut détecter tout ça et chercher à le ramener sur la bonne piste.
Merci beaucoup. C'est que l'AFIA, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce que vient de dire déjà aux deux prédécesseurs?
Je vais partir de l'idée que M. Pierre avait souligné concernant les sportifs. Donc, il n'est pas rare de constater dans nos équipes de football surtout qu'on parle de dopage. Donc, les jeunes qui veulent obtenir de bons résultats sportifs pour gagner de l'argent dans les clubs, c'est pas rare de trouver ces cas-là. Et on sait souvent là où ça finit, souvent. Au soir de leur vie, c'est des gens qui deviennent pratiquement inactifs. Pour les solutions, je trouve que ces cas-là arrivent parce que d'abord, il y a ces produits-là qui sont accessibles dans la société.
Facilement.
Donc, et facilement trouvables. Et surtout, les produits stupéfiant est appelé la drogue, je pense qu'il serait urgent que toute la population commence par faire de la dénonciation. Parce que ce n'est pas des produits prescrits dans un centre de santé. Donc, tout vendeur de ces produits devrait être dénoncé. Et pour ce qui est des bistrots, des cabarets, des bars, je pense qu'il serait urgent que nos autorités prennent des décisions pour responsabiliser les gérants, voire même les propriétaires de ces centres de vente de produits. Et parce qu'il ne faut plus vendre ces produits à n'importe qui. Il y a un âge donné de personnes qui doivent fréquenter ces genres de lieux. Et en dehors de cela, côté des parents, je suis en train de voir, il faut que les parents eux-mêmes donnent d'abord de bons exemples. C'est-à-dire, il y a des comportements que certains parents ont qui progressivement fait glisser les enfants dans la consommation de ces genres de produits. Par exemple, envoyer l'enfant pour acheter du tchouk, par exemple, dans un cabaret. Il sait ce qu'il y a dedans. Il va même de façon traditionnelle, on le fait goûter d'abord. Et après, il ramène la goutte à la maison. Donc, petit à petit, ça veut dire que celui-là, vous êtes en train de l'initier sans le savoir. Pour recadrer la jeunesse, dans nos communes, dans nos arrondissements, il y a les espaces, les centres d'accueil qui manquent cruellement. Ouais, nos enfants ont envie de se divertir, mais ils ne savent où aller. Il n'y a pas de centre d'accueil. Ce que nous appelons communément les espaces sûrs. Donc, il y a ces lieux dans certaines localités où des enfants d'un certain âge, de 3 ans même jusqu'à 18 ans, où ils peuvent aller se récréer, se faire former dans divers métiers. Donc, cela aura le temps de maintenir le jeune pour jusqu'à une portion de temps de la journée. Et le reste du temps, il retourne à la maison. Donc, ces centres-là manquent. L'enfant en manque de diversion, tout ça là, donc, tombe sur les mauvaises camaraderies et progressivement, on l'initie dans la consommation des drogues.
Nous sommes au terme de cette émission. C'est que Pierre, votre message.
Oui, merci, monsieur le journaliste. Et je vais appuyer mon vis-à-vis, qui est là, monsieur Seke, qui parlait de la responsabilité des parents. Vous voyez, l'enfant à la maison est avec son père ou sa maman, donc ses parents. Et quand l'enfant quitte la maison, il se retrouve à l'école avec son enseignant. Alors, le parent doit être un modèle, un miroir, un bon exemple. L'enfant imite chaque jour. S'il se retrouve avec un parent qui est accro à l'alcool, un consommateur sérieux, du sodabi, il se retrouve à l'école avec un enseignant qui est un bon consommateur de tchoukoutou, alors il est inévitable que l'enfant ne soit un grand buveur, soit d'alcool ou de tchoukoutou. Il ne s'est pas trompé de chemin parce que c'est l'exemple qu'il a vu. Donc pour lui, c'est normal. Alors, c'est pour dire enfin que l'enfant, nous parents, nous sommes responsables. Il nous faut un bon comportement. Et les enseignants aussi, non seulement qu'ils sont enseignants, ils sont aussi parents d'élèves. C'est ce qu'on oublie. Ils ont aussi cette grande responsabilité de sensibiliser, d'être le miroir de la société.
Sroko Richard, vos conseils.
Merci, monsieur le journaliste. L'éducation de nos enfants à l'école repose sur leur santé mentale. La consommation de la drogue est une question très, très importante. Donc, en un mot, l'important est de promouvoir un dialogue ouvert et honnête sur ces questions où les jeunes se sentent en sécurité pour partager leur expérience et leurs préoccupations.
C'est que Lafia, votre message pour clore cette émission.
D'accord, je voulais rebondir des propos du directeur Richard. Ce serait aussi impérieux que puisse avoir un cadre de rencontre entre parents, enseignants et élus locaux. Donc, pour des séances de sensibilisation sur la consommation des stupéfiants. Donc, pour pouvoir combattre ce phénomène.
Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous Sroko Richard, il est directeur au primaire à Condé. Eh bien, c'est que Pierre, qui est parent d'élève. Le troisième invité, c'est que Lafia,
Il est coordonnateur à la cellule de participation citoyenne de Coindé. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de ce même programme.
Table ronde. Table ronde.
C'est une émission produite par le projet Mais aussi, cofinancée par l'Union européenne et pilotée par la Fondation Hirondelle en consortium avec l'Affaire CAB et Ecolab.